Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 13 septembre 2019 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Adrien et je suis accompagné de Laetitia.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 7 du Café de l'e-commerce. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre l'actualité du marketing digital et de l'e-commerce. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille en suivant cette actualité différemment dans vos oreilles.
Si vous aimez ce que vous allez écouter, écrivez-nous, laissez-nous vos commentaires et laissez-nous 5 étoiles si vous écoutez avec Apple Podcast.
N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur Instagram et Facebook pour ne rien rater de l'actualité et des coulisses du podcast.
Nous sommes un podcast indépendant et ne sommes affiliés à aucune société privée. Notre avis n'engage que nous.
Au menu de ce 7e numéro du Café de l'e-commerce, pas de grève, on assure la relève. Nous ne sommes pas côte à côte avec Adrien comme à notre habitude, mais cela ne nous empêche pas d'enregistrer. Nous avons glané les news importantes de l'e-commerce en France et à l'étranger.
Vous n'avez pas le temps de faire de la veille, on vous sert un café gourmand avec ses milliardises sous forme de news importantes du secteur.
Alors Adrien, quoi de neuf chez toi? Des déplacements ces derniers jours, des événements?
Pas de déplacement, j'étais malade une partie de la semaine, mais lundi, on a organisé un événement client. C'était assez intéressant, il y avait de belles marques, des marques du CAC 40 international, d'autres plus petites, des marques françaises qui vendent au travers de leur site juste en France. Et c'est toujours intéressant de rencontrer des retailers et d'échanger, pas simplement pour parler avec eux, mais pour voir comment eux ils parlent. Moi je suis toujours fasciné de voir à quel point les problématiques sont assez similaires. Donc on avait organisé un petit événement dans le cadre de la société dans laquelle je travaille et c'était un format happy hour pendant 2 heures et je trouvais ça très, très sympa et très intéressant et maintenant on commence à avoir l'habitude, mais c'est toujours très sympa de voir que un des personnes qui se connaissaient pas en fait se connaissent parce que c'est un milieu très, très petit, celui de l'e-commerce en France, et deux, peu importe la marque que ces personnes représentent ou leur poste, ils ont des problématiques très similaires et ils peuvent échanger. Donc c'était assez intéressant et assez enrichissant.
Donc tu as bien commencé cette semaine.
Ouais, c'était super, super intéressant. On a eu aussi cette semaine, donc on veut remercier également tous ceux qui nous envoient des messages, soit au travers des commentaires, au travers du formulaire. Normalement, vous avez le lien dans la description du podcast ou sur notre site, vous pouvez simplement cliquer, c'est anonyme et vous avez un petit formulaire qui apparaît, vous laissez simplement votre message, il n'y a pas besoin d'email, il n'y a pas besoin de nom et vous pouvez nous communiquer ce que vous voulez. Alors en l'occurrence, c'est une personne de la communauté Nipcast, c'est des podcasts que j'écoute, Alex, qui nous écoute sûrement, donc merci beaucoup de m'avoir contacté.
Merci Alex.
Et ouais, il nous a contacté justement pour une petite correction sur une précision sur quelque chose qu'on avait mentionné dans, je ne sais plus si c'était l'épisode précédent ou celui encore d'avant sur Amazon, sur le programme Fulfillment by Amazon. On parlait de Fulfillment by Amazon Donation, le nouveau programme qui permettait de faire des dons de certains invendus. En réalité, la petite précision qu'on aurait dû faire, c'est que ce programme s'adresse aux sellers, donc aux revendeurs sur la marketplace. Lorsque tu es revendeur et que tu envoies un produit, enfin que tu vends un produit et que celui-ci il y a un défaut ou alors que tu en as trop envoyé à Amazon ou alors il y a un défaut et il faut le retourner, ça a un coût pour le revendeur. Pour le vendeur tiers, on va dire. Et donc là, le programme permet d'éviter d'avoir le produit qui est retourné au revendeur et de simplement le mettre à disposition via un programme de donation. Donc c'est une manière assez intelligente parce que ça fait économiser de l'argent pour les resellers et puis ça évite le gaspillage.
On passe aux infos à retenir.
Exactement. Alors pour les quelques infos qu'on avait, la première c'était sur le site de la FEVAD, une institution qu'on connaît bien. Alors il y a un rapport qui est sorti sur le bilan complet des chiffres du e-commerce en Europe. Et ce qui était assez intéressant, c'est en termes de chiffres, bon, on est en croissance, on l'entend. En 2018, on était à 747 milliards d'euros. On continue à avoir une progression à deux chiffres. C'est ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré les années, on continue à avoir toujours cette progression à deux chiffres, alors qu'il diminue, mais on reste sur une progression à 11,9%. On devrait avoir même pour cette année une petite légère augmentation autour de 14%. Donc on est au-delà de 10%, et quelques années on était à 20%, mais ça donne aussi une... Enfin, j'aime bien ces indications de la croissance de l'e-commerce, parce que quand tu es une marque, ça te permet de savoir également comment te comparer par rapport à l'e-commerce. Tout le monde est en croissance, je simplifie, mais l'e-commerce est en croissance, donc une marque, un retailer qui a une croissance de 20-25% ou de 5%, il peut mettre ça en perspective. Et peut-être l'information également intéressante sur le rapport, c'est certains insights qu'ils ont récupérés avec tous les interviews. C'est les principaux défis à relever pour l'ensemble des consommateurs européens lors des achats en ligne. Ça reste la rapidité de la livraison, la confiance dans la réception, le retour des colis, le traitement des réclamations et la question des sécurités de paiement. Et en dehors de ce dernier élément sur le paiement, tous ces sujets, c'est le post-achat. Ouais, donc ça montre aussi qu'on a bien optimisé le parcours d'achat. On aura sûrement l'occasion d'en reparler lors de la Paris Retail Week, mais moi, j'ai l'habitude de le dire aux marques quand je les rencontre, c'est peu ou prou, le site e-commerce, il est optimisé. On arrive à faire correctement de l'acquisition, plus ou moins qualifié, le taux de conversion, on sait comment le travailler, maintenant on est sur de la micro-optimisation, mais quand on a fini sa commande, toute la partie post-achat, elle est vraiment voilà, déséquilibrée par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir.
Déséquilibrée, t'es gentille, elle est même négligée, hein.
Bah aujourd'hui, la plupart, bah parce qu'ils n'en ont pas conscience, et on pourra peut-être faire un épisode. Bah, disclaimer, je travaille dans une société qui propose une solution de post-achat, donc on va faire attention à comment je communique autour de ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses encore à faire sur ce sujet-là.
Alors moi, la news que j'ai retenue, c'est que Brandalet est placé en redressement judiciaire. Je ne sais pas si tu connais Brandalet, Adrien, mais ça faisait partie des grandes applications du type showroom privé ou alors vente privée que moi, en tout cas, j'avais l'habitude d'avoir sur mon smartphone et de regarder et de consulter. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que moi-même, je me suis vachement délaissée de cette application. Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi on entend moins parler. En fait, Brandalet vient d'être placé en redressement judiciaire début septembre. La marque se revendique quand même comme le numéro 3 français de la vente digitale et événementielle, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 70 millions d'euros en 2018. Elle revendique également 7,4 millions de visiteurs mensuels. Bon, les visiteurs, c'est jamais ça reste que des visiteurs. Il y a plus de 2500 marques, et la grande force qu'avait Brandalet, c'était que à l'époque, elle s'était positionnée sur de l'habillement, et puis surtout, c'était une marketplace qui proposait du déstockage. Et puis là, c'est un modèle qui commence un peu à s'essouffler, et ce redressement judiciaire remet en cause tout ce modèle-là. Et l'entreprise affirme vouloir se réorienter et proposer de nouvelles offres, notamment sur l'univers de la maison et du lifestyle. Ça reste quand même une application, enfin un modèle et une application créée depuis 2005, donc qui est quand même assez vieux dans le paysage e-commerce français. Alors je dis application, mais en fait ça existe aussi sur web. Voilà, donc on voit des numéros 3 qui commencent comme ça à se déliter, et des modèles qui commencent à être mis en cause. Je me réjouis absolument pas de cette news, hein. Je dis juste que les redressements judiciaires et les choses comme ça, ça fait réfléchir, ça donne du mouvement. Adrien, tu disais que c'était une industrie très sympathique, c'est beau, c'est merveilleux, c'est à deux chiffres. Bon, il y a quand même des petites histoires moins sympathiques.
Ouais, et donc on voit souvent, mais en tout cas je vois régulièrement dans les news des marques à l'international qui ont également redressement judiciaire ou qui ont des problèmes.
Alors on en parlait, Forever 21, alors d'ailleurs c'est une info qui a choqué pas mal de gens, notamment sur les réseaux sociaux, et Oussama qui était notre invité, qui nous a dit à posteriori, moi la news qui m'a le plus choqué, c'est Forever 21 qui est en train de faire faillite.
Il y en a d'autres en France également, je ne sais pas si c'est, il y a beaucoup d'infos, enfin dans quelle mesure c'est public, mais on est en contact avec certaines des marques et on apprend des choses, des restructurations, des départs, ou donc voilà, même des grands noms, des grands retailers en France. Oui, finalement,
ça interroge sur le modèle qui est vraiment en train de certains modèles qui sont en train de se remettre en cause.
Alors bon, c'est une news qui a maintenant, je crois, quelques semaines. La news en tant que telle, elle a 24 heures. La news, c'est la France n'acceptera pas le Libra. la monnaie, la crypto-monnaie de Facebook.
Je précise, c'est Bruno Le Maire qui vraiment, déjà, on sait, part en guerre contre les GAFA et les GAFAM. Et puis là, maintenant, c'est Facebook qui l'a dans le collimateur avec notamment cette crypto-monnaie, la crypto-monnaie de Facebook.
Alors, on pourrait faire un épisode complet dessus. Je vais essayer d'être très synthétique et le plus simple possible. Pour comprendre ce qu'est Libra, on entend beaucoup blockchain, bitcoin, crypto-monnaie, et tous ces concepts, parfois, ils sont assez confus. La blockchain, c'est la technologie qui permet de sécuriser et de stocker des informations de manière complètement décentralisée, pour le faire très très simple. Par-dessus, un des usages qu'on a créé sont les crypto-monnaies. La plus connue qu'on connaît, c'est le Bitcoin. Je crois qu'il est aujourd'hui à 45%. 40-45% d'ensemble des crypto-monnaies, donc ça reste la crypto-monnaie qui est la plus utilisée. Et pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de Libra, où ça semble faire bouger les choses? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui c'est assez compliqué d'acheter du Bitcoin, d'utiliser du Bitcoin, et finalement ça reste quelque chose qui est fait pour les geeks. C'est pas quelque chose qui est commun. Monsieur et madame tout le monde manipulent pas du Bitcoin, ils savent pas vraiment ce que c'est. Et aujourd'hui, oublie le mot crypto.
Tu dis aujourd'hui que c'est pas très accessible, c'est ça?
C'est pas accessible. Oui. Et aujourd'hui, si tu te mets à la place de Facebook et oublie le mot crypto-monnaie, on va juste parler d'une monnaie virtuelle. Si tu utilises aujourd'hui Facebook Messenger, WhatsApp, et que tu peux en un clic envoyer de la monnaie virtuelle à tes amis, ta famille qui sont à l'autre bout du monde sans aucun frais, ou avec des frais minimes. Mmh. Tu vois l'usage, tu comprends pas ce qu'il y a derrière, sur quoi ça repose, mais l'usage, il est réel. Et potentiellement, tu as 2,2 milliards d'utilisateurs Facebook. Il y en a une grande, enfin, il y a des territoires, enfin des régions où il n'y a pas de banque, où il y a des personnes qui n'ont pas de banque plutôt, et ça peut aider énormément de personnes. Donc la valeur pour l'utilisateur, il faut pas la négliger, elle est là. Maintenant, le risque, il y en a beaucoup, donc aujourd'hui moi j'ai pas de réponse. Ce qu'il faut juste, c'est se mettre à la place de chaque acteur. Le risque, c'est une société privée, et en réalité c'est pas vraiment Facebook qui va contrôler Libra, mais ça va être une vingtaine de sociétés qui vont se mettre d'accord sur les règles et sur la gestion du Libra. Donc ça va complètement à l'encontre d'ailleurs des principes du Bitcoin, qui est complètement décentralisé, qui n'est pas contrôlé par une entité. Mais bon, soit, ça c'est encore une d'autres discussions. Finalement, on se retrouve avec une société privée ou des sociétés privées qui vont gérer une monnaie. Cette monnaie, elle va pouvoir être touchée tout de suite 2 milliards de personnes et être globale. Donc la force de frappe du Libra, elle est beaucoup plus importante qu'un Bitcoin, où c'est compliqué, il faut avoir des wallets, il faut avoir certaines connaissances techniques pour pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, les craintes des gouvernements, c'est de se dire on va perdre le contrôle d'énormément de choses sur le blanchiment d'argent, sur le financement du terrorisme, etc. Et ça peut également ça peut complètement déstabiliser le système financier. Alors, il y en a qui vont applaudir, d'autres qui vont se dire c'est dangereux. Il n'y a pas de réponse. Peut-être ce qui a été dit, c'est en France, il faut plutôt réfléchir à une crypto-monnaie publique européenne. Pourquoi pas. Ce que j'en ressors, donc de toute façon Facebook va vouloir le faire, ils vont le faire en 2020, donc ça va arriver très très vite. Ça va permettre de se poser les bonnes questions, et ça va démocratiser la blockchain. Ça va rendre public tout ce qui est en train de se faire, et je suis convaincu qu'il y a des choses intéressantes qui vont ressortir. On va se poser de nouvelles questions, et il va falloir trouver des nouvelles solutions. Donc je dirais simplement, on peut se dire Facebook grand méchant avec les privacy, les règles des vies privées, etc. Ça peut être compliqué, ou il faut faire très attention s'ils lancent leur crypto-monnaie. Et d'un autre côté, si on se met côté utilisateur, il y a un bénéfice, donc il y a peut-être quelque chose un équilibre à trouver, ou alors tout simplement il faut nous-mêmes qu'on soit acteur et qu'on crée quelque chose.
Très bien. Merci Adrien, c'était vraiment très instructif. Moi, je vais poursuivre avec Facebook. C'est une petite news comme ça qui est bien rigolote, mais qui, mine de rien, en dit encore long sur la croissance de Facebook et sur ses ambitions. Donc, Facebook lancera Facebook Dating en France en 2020. Le service a déjà été lancé aux États-Unis il y a quelques jours. Et donc, Facebook Dating, c'est vraiment comme un Tinder, mais intégré à ton Facebook. Le service est déjà disponible en 19 pays, parmi lesquels l'Argentine, le Canada, le Chili, le Pérou, le Mexique, la Thaïlande, le Vietnam ou encore Singapour. Et ce service est vraiment basé sur le principe du matching, typique des applications de rencontres. Sauf que pour le moment, Facebook dit c'est gratuit, mais est-ce que ça le restera toujours ? Je ne sais pas si tu te souviens, Adrien, mais la baseline de Facebook jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelques jours, c'était inscription gratuite et ça le sera toujours. Cette baseline a sauté bizarrement il y a quelques jours, parce qu'en réalité, rien n'est gratuit sur Facebook. Bien évidemment, tu ne payes pas, tu ne sors pas ta carte bleue pour t'inscrire. En revanche, tu alimentes Facebook en données. Voilà. Bon, je ne vais pas refaire toute la machine. Mais l'idée, c'est que Facebook va sur un terrain qui est le dating, qui était jusque-là trusté par des Tinder, des Mythic en France, des OkCupid aux US, où au bout d'un moment, il fallait dégainer la carte bleue. En tout cas pour les mecs, parce que c'est pas non plus très paritaire ce marché-là. Et les mecs, pour pouvoir accéder à davantage de profils ou davantage de services, devaient payer. Est-ce que Facebook restera sur un modèle comme ça, donc un modèle où il faudra payer, ou alors restera fidèle à ses valeurs, c'est gratuit, mais je récupère de la data, en l'occurrence toutes vos photos, parce que tout va être basé sur ce que tu renseignes sur ton Facebook, donc tes photos, les endroits que tu fréquentes, les événements auxquels tu t'inscris, tes goûts musicaux, et puis aussi tous les groupes de communautés auxquels tu appartiens. Donc par exemple, toi, si tu es dans un groupe de crypto, bah, potentiellement, si tu décides d'accéder au service Facebook Dating, on va te proposer des nanas qui aiment la crypto-monnaie. Mais bon, si ça se trouve, tu n'as pas envie de rencontrer des nanas qui sont fans de crypto. Hein. Voilà, et tu vas continuer à alimenter toute la machine et tout l'algorithme sans te rendre compte que, en fait, si tu payes, tu donnes de ta vie privée. Et puis, de l'autre côté, tu auras des Tinder et des Cupid qui vont être délaissés parce que, finalement, tout est intégré sur Facebook. Donc, quel intérêt de switcher et de me dire mon dating c'est sur Tinder, tout le reste se passe sur Facebook. Non, en fait Facebook, tout va se passer sur Facebook. Donc je ne prédis pas la fin des Tinder et des OkCupid. En revanche, il y a un chiffre qui ne ment pas, c'est qu'à l'annonce de ce nouveau service, le groupe Match, donc qui possède Tinder et OkCupid, a chuté de 6%. On passe au levée de fonds et rachat. Moi, j'ai noté que Savage, qui est la marque de Rihanna. Je ne sais pas si tu savais, Adrien, mais Rihanna, elle a lancé une marque de lingerie qui s'appelle Savage X Fenty. Sa marque a été lancée en 2018, notamment avec le soutien du groupe de mode Textile. Donc, c'est de la tech, hein, comme son nom l'indique. Et c'est aussi de la mode. Et c'est un spécialiste qui a notamment collaboré avec Flabetics. Rihanna, en plus d'être l'une des chanteuses les plus connues et les plus riches au monde, a eu envie de se diversifier. Et la nana, elle est quand même hyper intelligente. Elle s'est dit, tiens, je vais faire comme tout le monde. En tout cas, comme toute ma cible, soit le fait, soit l'endroit où elle a l'habitude de consommer, c'est-à-dire sur Internet, et principalement des digital native brands. Donc, des marques qui sont conçues, vendues, sur Internet, on oublie l'aspect boutique. Donc Rihanna a construit sa marque uniquement en ligne. Et elle vient de lever des fonds. Fin août, elle a levé 50 millions de dollars. Et elle s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, bon, moi j'ai levé 50 millions. Et en plus, maintenant, mes défilés, ils vont être uniquement diffusés sur Amazon Prime Video. Donc la nana, elle est sur toutes les verticales du digital. Elle n'oublie rien. Sa communauté n'est jamais laissée pour compte. Elle est omniprésente. Et en plus, elle communique sur les réseaux sociaux d'une manière tellement, comment on va dire, dans l'air du temps, sur le positive body, toutes ces choses-là, que gros lot, jackpot, 50 millions de dollars. Et elle est vraiment backée parce que c'est LVMH qui est derrière ces deux autres marques, ces deux autres brands qui sont spécialisés sur la beauté et le prêt-à-porter. Donc, elle a trusté le truc, elle met des coups de balai à des Victoria's Secret, des gens comme ça, de manière phénoménale. Et moi, je trouve que c'est une news qui méritait d'être relevée, parce que Rihanna, c'est pas une nana de l'industrie. Hein. Néanmoins, même si elle est bien entourée, elle a tout compris au game.
Elle va pouvoir beaucoup s'amuser en discothèque avec ce qu'elle vient de lever. En tout cas, c'est assez impressionnant, la Success Story, et je sens qu'elle t'inspire beaucoup.
J'adore Rihanna.
Avec beaucoup d'admiration.
C'est pas ma préférée. Ouais. Moi, je suis une fan de Queen Bee. Hein.
Levée de fonds qui est proche de chez nous avec Akeneo. Le PIM open source créé en France. Ils viennent de lever 46 millions de dollars pour développer leur solution et également pour accélérer sur les États-Unis. Ils avaient déjà un bureau, ils ont 180 personnes aujourd'hui et ils prévoient d'être 300 d'ici 2020. Je m'attendais à ce qu'ils soient plus de personnes. Quand Akeneo, je le sens.
Ouais, alors je pense que c'est les chiffres de Akeneo parce que je sais qu'ils ont racheté une boîte israélienne qui s'appelle Sigmento. Donc du coup, je pense que c'est les chiffres uniquement Akeneo 100% sans compter le rachat de Sigmento.
75% des revenus sont hors de France, donc vraiment belle boîte internationale et superbe solution, en tout cas belle pépite, et on est heureux pour eux d'avoir de continuer leur croissance.
Alors, moi je vais parler d'Alibaba maintenant. Alibaba qui vient d'acquérir Koala. Koala, c'est la division luxe de NetEase, qui est spécialisée dans les ventes de produits luxe importés du type Burberry, Shiseido, Gucci. Très présent en Chine, j'ai oublié de préciser. Et Alibaba a décidé, ce rachat n'est pas anodin en réalité. Alibaba vise le secteur du luxe et s'est offert pour la modique somme de 2 milliards de dollars. Et son objectif, c'est bien évidemment d'étendre sa clientèle, mais surtout de désamorcer son ralentissement de croissance, qui est pas si alarmant que ça, et qui est assez normal dans le milieu de l'industrie. Au bout d'un moment, on atteint son rythme de croisière, et c'est à ce moment-là qu'il faut se diversifier, et Alibaba l'a parfaitement compris en allant vers le luxe.
Section Amazon, Laetitia, on avait quelques news avant de passer aux news en vrac. Moi, ce qui m'a... Alors, c'est une petite brève, même, c'est même pas une news, c'est une brève. Je trouve ça, encore une fois, impressionnant. C'est qu'aujourd'hui, chez Amazon Logistique, ils emploient 648 000 personnes. Ce qui fait d'eux l'acteur numéro 1 devant FedEx, 450 000, devant UPS, 481 000, devant USPS, 497 000. Et donc c'est impressionnant, et surtout quand tu sais que donc aujourd'hui 2019 648 000, en 2013 ils étaient 117 000. Donc croissance impressionnante, ils sont en train de développer leur propre réseau qui va leur permettre de gagner encore plus en efficacité et de tout contrôler la chaîne de bout en bout.
On poursuit avec le focus Amazon qui testerait le paiement par empreinte par mer. Donc c'est une rumeur. Amazon sera en train de lancer des expérimentations pour un nouveau moyen de paiement. Donc après le paiement sans contact, Amazon réfléchit à proposer une méthode de paiement deviceless, donc sans device, donc sans TPE, sans montre, sans téléphone, voilà. Et ce serait de la reconnaissance palmaire, donc la main. Les conditions pour cela, ce serait encore et toujours d'être abonné à Amazon Prime, avoir déjà préenregistré sa méthode de paiement privilégiée et ses infos de carte bleue. Le dispositif pourrait être prochainement proposé dans la chaîne de supermarchés américaine Whole Food Market, qui elle-même a été rachetée par Amazon en 2017.
Il y a également les magasins Amazon Go, je crois qu'ils s'appellent. Donc il faudrait peut-être, enfin je pense qu'il l'intégrera également. Bon, une initiative, on va voir si ça va se répandre, mais si on commence à suivre, enfin bon, on le fait de toute façon à chaque épisode, toutes les initiatives d'Amazon, il y en a qui donneront rien. Exactement. D'autres qui mènent à certains projets, c'est presque de l'ASF quoi. Quand j'ai lu la news, je me dis, est-ce que c'est vraiment sérieux?
Ça peut retomber dans deux semaines, on n'en parlera plus et ce sera à l'eau et...
Ouais, mais en tout cas, qui travaille dessus, c'est, enfin, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans dans un film. J'aurais dit oui, bon, ok, c'est un film. Aujourd'hui, on donne la news comme et on se dit ça.
Alors,
ça fonctionne,
juste moi ce matin, j'étais en rendez-vous médical et mon biologiste me disait toujours sur ce sujet-là que maintenant ils allaient proposer. Enfin, certains biologistes et notamment des grands groupes informatiques, je crois qu'il me parlait d'Hitachi, réfléchissaient à faire de la reconnaissance. Non pas palmaire, mais veineuse en fait. Donc, bien évidemment, tu présentes ta main, mais en fait, les veines font partie des seuls organes qui ne vieillissent pas. Parce que la reconnaissance faciale, bah oui, effectivement, tu vieillis, voilà. Et notamment dans le domaine médical, bah, ça peut servir quand tu vas au laboratoire et que tu veux récupérer tes analyses, ces choses comme ça. Et effectivement, mais ça, c'est initié par des acteurs type Amazon qui sont les précurseurs dans le contactless, enfin, voilà.
Laetitia, j'ai un challenge pour toi. Est-ce qu'on va réussir à tenir en dessous des 30 minutes? Attaquons directement les news en vrac. De mon côté, un RGPD américain. Donc, super de voir que la France, l'Europe, on peut également inspirer et construire un modèle différent. Donc, Amazon, AT&T et 51 entreprises réclament un RGPD américain. Les lois sur la confidentialité varient trop d'un État à l'autre et ils veulent avoir des règles qui soient communes pour l'ensemble des pays. Ça va créer un climat de confiance pour les consommateurs. Les deux volets de leur demande tournent autour de la mesure de la protection des données pour encadrer avec précision la notion de responsabilité. Et on connaît, pour connaître bien le périmètre légal sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et une approche technologique neutre pour stimuler l'innovation et l'interopérabilité.
Jack Ma quitte Alibaba, qu'il a créé il y a 20 ans. Je crois que j'avais encore de l'acné quand Alibaba a été créé. Donc, il a pris sa retraite, mais c'est pas une grosse news puisqu'il l'avait déjà annoncé il y a, je crois, 3-4 ans en disant, voilà, quand j'arriverai à, je crois, 50 ans ou 60 ans, je tournerai la page d'Alibaba.
Le cloud va faire exploser la consommation d'énergie en Chine d'ici 2023.
Le Bon Coin acquiert l'Argus, le journal spécialisé dans l'estimation et la valeur de véhicules, qui était une référence, qui est toujours une référence en France, avec 90% des parts de marché.
Le commerce électronique dépasse le commerce offline et atteindra les 230 millions en 2028 en Inde.
Et enfin, InDesign fête ses 20 ans, Adobe InDesign. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafedelecommerce.fr et profitez pour vous inscrire à notre newsletter.
Si vous voulez qu'on parle de certains sujets, contactez-nous par email à info@lecafedelecommerce.fr ou cliquez juste sur le lien dans les notes de l'émission.
Enfin, si vous souhaitez participer à nos interviews, nous vous invitons à nous contacter.
Bien entendu, lorsque j'ai cité la news sur l'Inde, je voulais dire 230 milliards et pas millions. Vous l'avez bien compris. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Et si vous avez un appareil Apple, et dans tous les cas, essayez de le partager autour de vous, à vos équipes, à vos collègues, à vos amis.
Nous sommes disponibles sur les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer,
Spotify,
voilà, je les fais toutes. Pocket Cast, Podcast Addict.
T'en as encore oublié? Non, je plaisante. Bon, merci à tous, merci Laetitia,
merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Au plaisir. Ciao.